Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, la liberté d'expression est-elle menacée en France et peut-on faire confiance à la Chine ? Nos débatteurs ce dimanche, Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste au journal Le Monde, votre dernier livre chez Stock, Les Aveuglés. Comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. Bertrand Badie, bonjour.
Bonjour.
Professeur en relations internationales. Pour une approche subjective des relations internationales, vous l'avez publié l'an dernier chez Odile Jacob. Catherine Tricot, bonjour.
Bonjour aussi.
Directrice de la revue Regard, le dernier numéro de la revue européenne, et si on évitait la catastrophe. Et puis Laetitia Strauss-Bonnard, bonjour.
Bonjour.
Essayiste de la France, ce pays qu'on croyait connaître, c'est le titre de votre dernier ouvrage qui a été publié chez Perrin. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous évoquerons la visite de Xi Jinping en France. Le numéro 1 chinois arrive à Paris aujourd'hui. Dans un contexte de tensions internationales majeures, Ukraine, Proche-Orient, Taïwan. Alors la Chine peut-elle jouer un rôle de médiatrice ? Fait-elle partie de la solution ou du problème ? Nous en débattrons. Tout de suite, notre premier sujet.
Dans quelle démocratie une présidente de groupe parlementaire d'opposition est-elle convoquée devant la police pour répondre de ses opinions politiques ? Ce qui se produit est une fuite en avant autoritaire sans précédent.
La présidente d'un groupe parlementaire convoquée donc devant la police judiciaire pour apologie du terrorisme. Voilà un moment rare, pour ne pas dire inédit, dans la vie politique française. Mathilde Panot, c'est telle que vous venez d'entendre, elle était entendue justement mardi pour répondre d'un tract publié par LFI le 7 octobre, dans lequel on pouvait lire cette phrase introductive. L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Alors, apologie du terrorisme, ce sera à la justice d'en décider. Laquelle justice a fort à faire en la matière. Depuis l'attaque du Hamas contre Israël, le parquet de Paris a fait l'objet de 386 saisines pour ce délit inscrit dans le code pénal depuis 2014 et qui a par exemple valu à un militant de la CGT d'être condamné il y a quelques jours à une peine d'un an de prison avec sursis. En volonté de faire taire ou d'intimider les défenseurs de la cause palestinienne, judiciarisation de la parole politique, maccartisme à la française, beaucoup expriment leur inquiétude face à la multiplication de ces procédures et à leurs conséquences sur la liberté d'expression. D'autant qu'à celle-ci s'ajoute l'annulation récente d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine, d'abord par l'Université de Lille, puis par la préfecture du Nord, et des occupations de facs comme à Sciences Po ou à la Sorbonne, avec parfois des évacuations à la clé. Et là encore, la possibilité entravée de débattre sereinement d'un sujet éruptif. Alors, la liberté d'expression est-elle en danger ? S'agit-il au contraire de mesures rendues nécessaires face au risque de dérapage antisémite, alors que les faits de cette nature sont en très forte augmentation depuis le 7 octobre ? La brutalisation du débat public doit-elle conduire à redéfinir les limites de cette notion ? C'est ce dont nous allons discuter. Et commençons donc par cette convocation de Mathilde Panot et Rima Hassan, qui est une candidate de la France Insoumise pour les élections européennes, devant la police judiciaire. Convocation Catherine Tricot, suite à une plainte pour apologie du terrorisme. Est-ce que finalement, ça ne relève pas de la procédure tout à fait normale de la justice que de convoquer des personnes qui font l'objet d'une plainte ?
Je me dis, c'est qu'il y a une question qu'est-ce qu'on place sous le terme d'apologie ? Est-ce que c'est acceptable, même le texte que vous avez lu, de le mettre sous le terme d'apologie ? Il y a un désaccord, on peut être totalement en désaccord avec les analyses qui ont été produites par la France Insoumise à partir du 7 octobre. Est-ce que pour autant, il était question de partir soutenir les militants du Hamas, voire de soi-même prendre les armes pour libérer la Palestine, etc. Je veux dire que il y a
ça, c'est la justice qui va répondre à cette question.
C'est la justice, mais c'est qu'elle a quand même reçu la plainte. C'est-à-dire que toute plainte n'est pas recevable parce qu'elle est posée. Et là, en l'occurrence, Dupond-Moretti avait fait une circulaire en octobre-novembre, disant qu'il fallait utiliser cette loi de 2014 qui avait d'ailleurs à l'époque été contestée pour son grand flou. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'on mettait derrière ce terme d'apologie du terrorisme?
Voilà, c'est une incrimination qui existait avant dans la loi sur la presse de 1881 et qui a été pénalisée, hein, qui est rentrée dans le...
En 2014, ouais. Voilà. Et qui avait, à l'époque, été contestée pour cela. Et donc là, aujourd'hui, Dupond-Moretti, donc garde des Sceaux, demande que l'on fasse usage de cette disposition. Et en effet, comme le rappelle Mathilde Panot, elle est la représentante du premier groupe d'opposition à gauche. C'est très inquiétant parce qu'en fait, d'une part, sur ce sujet, on voit que c'est une suite assez longue d'entorse, à mon avis, à la possibilité de s'exprimer. Alors, on voit qu'on est encore dans un état de droit, puisque, par exemple, Dauphine avait refusé à Rima Hassan de faire une conférence et que la justice vient d'ordonner...
Dauphine, c'est l'université. Hein, pour
l'université Paris-Dauphine vient d'ordonner à l'université Paris-Dauphine de finalement accueillir cette conférence qui avait initialement été programmée, puis interdite par l'université, puis de nouveau. Voilà. Mais ce que je dirais, c'est que je pense que l'inquiétude, elle est grande parce qu'elle n'est pas... Elle n'est pas simplement sur la question Gaza. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde bien, et c'est pour ça que, par exemple, Edoui Plenel a proposé cette formule McCarthyisme à la française, c'est qu'en fait, on est devant une généralisation des plaintes, c'est-à-dire une judiciarisation du conflit politique et social, avec des milliers de syndicalistes, par exemple, qui sont convoqués depuis les lois travail de 2016, et puis après la contestation de la réforme des retraites.
Milliers, c'est beaucoup, non?
Ah oui, c'est des milliers. Oui, ce sont des milliers qui sont... en tout cas, c'est ce que dit la CGT. Moi, je ne connais pas la liste, mais eux, ils disent avoir des milliers de syndicalistes qui ont été inquiétés par la justice depuis 2016. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui seulement, mais depuis 2016, depuis qu'en fait, on a eu cet engrenage la répression des contestations sociales. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point que je voudrais quand même signaler, c'est qu'on a aussi des inquiétudes sur la liberté d'expression qui n'est pas que celle des mouvements de gauche et sociaux dans la rue. C'est aussi, par exemple, dans l'information, dans la télévision. Je veux dire, ce qui nous inquiète, puisque nous sommes à Radio France, on peut dire qu'il y a une inquiétude sur la liberté d'expression et sa diversité et son pluralisme, y compris dans les chaînes d'information radio et télévision du service public.
Vous faites référence à l'affaire de Guillaume Meurice.
Absolument.
Qui est suspendu pour l'instant, sans que la direction de Radio France n'ait mentionné les raisons de cette suspension, mais après que Guillaume Meurice a refait sa blague sur Netanyahou, le nazi sans prépuce.
Absolument. Et la blague qui lui a valu également de passer devant un tribunal qui l'a relaxé. Donc, et puis ce n'est pas que Guillaume Meurice, enfin, il y en a d'autres également, toute la bande de Là-bas si j'y suis se trouve privée d'antenne sur France Inter.
Donc, ça fait quelques années déjà.
La bande, c'est-à-dire ceux qui ont été formés. Bon. Et puis il y a CNews.
Dans vous dites Catherine Rigaud, il y a une espèce de climat général qui fait qu'on a des... Enfin, en tout cas, que vous êtes inquiète pour la liberté d'expression. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes, Laetitia Strauch-Bonnard? Est-ce que le fait... Alors, je reviens quand même à Mathilde Panot qui a eu cette convocation. C'est quelque chose qui vous surprend, qui vous inquiète, qui vous paraît normal?
Alors, je suis d'accord en partie. Concernant l'apologie du terrorisme, c'est un délit qui est considéré, enfin, qui est défini assez strictement. Enfin, en tout cas... Il est défini dans la loi, c'est le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes. Et quand on entend Mathilde Panot et même quand on entend Rima Hassan, je trouve qu'il est difficile d'y voir là une apologie du terrorisme. On peut être en désaccord complet avec ce que ces personnes disent et défendent, mais de là à vouloir judiciariser le propos, je pense que c'est une pente glissante, c'est une pente dangereuse. Alors je n'y verrai pas forcément la main du pouvoir. Moi j'y vois plus largement l'effet d'une société qui a peur des mots, qui a peur des débats, qui a peur des confrontations, qui pense que les mots peuvent tuer. Alors oui, ça peut arriver. Il y a des mots, il y a des insultes, il y a des diffamations, il y a des appels au crime, à la haine, qui sont strictement définis par la loi également, et qui sont les limites à la liberté d'expression. Mais là, très franchement, il s'agit simplement de déclarations politiques à nouveau que l'on peut contester, mais qui doivent rester dans l'arène politique ou médiatique, qui doivent être discutées et réfutées dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est finalement accorder trop de crédit à la France insoumise que de vouloir pointer son éventuelle apologie du terrorisme. Parce que finalement, ça leur permet de se positionner en martyr d'une certaine façon, d'une sorte de répression de l'État.
Donc, c'est aussi une façon de les discréditer. C'est-à-dire que quand vous êtes poursuivi pour apologie du terrorisme, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Donc c'est
oui, mais vous voyez bien qui trop embrasse mal étreint. C'est-à-dire que plus on accuse de gens de faire l'apologie du terrorisme, moins on va prendre l'accusation au sérieux. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Concernant la liberté d'expression en France, plus généralement, il me semble que la situation est problématique, mais je n'aurais pas exactement la même analyse que Catherine Tricot. Je pense que tout le monde est concerné, mais de façon différente. La gauche est concernée dans les sujets qu'on vient d'évoquer, mais la droite est concernée aussi. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de gens de droite estiment que, justement, à Radio France, il y a un manque de pluralisme en faveur de la droite.
Bon, on ne fait pas un débat sur la liberté d'expression à Radio France, hein, quand même, aujourd'hui.
Non, mais je n'oserais pas faire ça,
surtout pour
ma première invitation, mais je répondais juste à la remarque de Catherine Tricot. Et l'émergence de ces news, c'est d'une certaine façon une sorte de réaction, de surréaction à un sentiment de ne pas pouvoir s'exprimer librement sur les chaînes dites mainstream. Donc, je partage votre analyse. Je pense que la liberté d'expression est en danger, mais le danger concerne tout le monde. On a parlé
des universités. En tout cas, vous dites le danger vient pas d'en haut. Alors c'est vrai.
Non, mais on a parlé des universités. Ouais. On sait bien qu'aussi il y a des conférences dans les dernières années qui ont été annulées. Donc on parle à ce sujet de cancel culture, de gens qui étaient considérés trop à droite pour venir s'exprimer sur certains sujets. Ou je pense aussi à Sylvia Nagasinski qui n'a pas pu s'exprimer dans une université à Bordeaux, il me semble, parce que elle avait une position sur la gestation pour autrui qui ne plaisait pas à certaines personnes. Donc, vous voyez bien que le climat est général et je pense qu'il faut défendre la liberté d'expression pour tout le monde. Quand on est de droite, il faut la défendre pour la gauche. Et quand on est de gauche, il faut la défendre pour la droite.
Bah, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron il y a quelques jours, Bertrand Badie, en disant, alors à propos toujours de la France insoumise, je ne partage pas la vision des choses, ni sur le conflit au Proche-Orient, ni sur beaucoup de choses de Jean-Luc Mélenchon, mais je pense que c'est important qu'il puisse exprimer sa voix. La censure, ou en tout cas les atteintes à la liberté d'expression, si tant est qu'elles soient vraiment manifestes, elles ne viennent pas forcément du sommet de l'État, mais peut-être plutôt d'un climat général, comme le disent Catherine Tricot et Laetitia Strauss-Bonnard.
Alors, l'image d'une candidate aux prochaines élections qui est convoquée au poste de police, ça c'est une image qui manifestement renvoie au sommet plus qu'à la base, en tous les cas au fonctionnement des institutions, et ça a quelque chose de glaçant. Ça a quelque chose qui fait penser à des régimes que je nommerai pas pour pas donner dans la polémique, mais que l'on a l'habitude de considérer comme autoritaires. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Alors je suis pas juriste, je ne veux pas me lancer dans une analyse juridique, mais peut-être trois ou quatre réflexions, rassurez-vous, brièvement. Le premier, c'est qu'il y a cette tendance depuis un certain temps non pas d'écouter l'autre, mais de requalifier les propos tenus par l'autre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extraordinairement dangereux et préoccupant. Surtout quand on joue avec des mots comme le terrorisme, que personne n'a réussi à définir de manière précise, ni les Nations Unies, ni bien d'autres instances, se permettre de dire que tel propos est une apologie du terrorisme à quelque chose de terrorisant. C'est-à-dire, c'est une pratique qui se banalise. C'est pour ça que je la mets en premier. C'est-à-dire, on n'écoute pas ce que dit l'autre, mais on projette ce que l'on considère avoir entendu de l'autre, ce qui est une violation grave, je crois, de la liberté. Le deuxième élément, c'est que, et je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire, je suis tout à fait d'accord avec vous, nous sommes dans une séquence où le débat se rétracte, voire est considéré comme quelque chose de dramatique. Or, l'essence de la démocratie, c'est la dédramatisation du débat. Je viens d'une école, où d'ailleurs je suis depuis 56 ans, j'arrive pas à en sortir, le fait que des étudiants veuillent débattre de la question de Gaza est considéré comme un drame absolument épouvantable. Mais depuis quand le fait de débattre Je ne dis pas d'imposer sa vision, mais justement de débattre, c'est-à-dire de la confronter à un autre, et quelque chose d'absolument insupportable.
Et on manifeste pas tellement une volonté de débattre quand on bloque une université. Ça, c'est pas tellement être dans le débat.
Écoutez, moi, j'ai été avec mes étudiants de Sciences Po toute la semaine passée. Il n'y avait pas de blocage. J'ai assisté, j'ai participé même, puisque j'ai été invité à un grand débat sur Gaza, où tout le monde s'exprimait avec un calme et une sérénité absolue. Il n'y a pas eu le moindre débordement et le moindre incident. De même, les étudiants ne disent pas « il faut couper les ponts avec les universités israéliennes ». Ils disent « il faut débattre de savoir si dans certaines circonstances, certaines conventions doivent être revues ou pas. Par exemple, les universités qui ont des liens avec les industries d'armement ou qui font l'apologie de tel ou tel bombardement. » Donc, il faut absolument préserver ce débat. Je suis d'accord avec vous, dans les médias. Alors, moi, j'aime bien le service public. C'est là que je me sens le plus en liberté. D'ailleurs, c'est le seul lieu où je suis invité. Mais il y a des chaînes d'information privées où je suis rejeté, où je ne suis plus invité, où j'étais invité 3 fois par semaine, où je ne suis plus du tout. Il y a un problème quelque part. Petit, tout petit niveau, c'est quand même une réflexion nano-sociologique qui mérite d'être prise en compte. Le troisième élément que je voudrais mettre en évidence et qui est très important, en fait, c'est cette montée de l'autocensure. Et moi, dans le milieu universitaire qui est le mien, de plus en plus des collègues me disent « il y a plein de sujets que je n'aborde pas ». Et moi-même, quand je faisais mon cours de relations internationales, je me gardais d'aborder certains points. Vous voyez où on en est. Si véritablement, dans l'enseignement de la science politique, on ne peut plus aborder un certain nombre de questions parce qu'on a peur, justement, de cette requalification, de cette interprétation qui vous est donnée par la bien-pensance, c'est grave. Et je termine par un point qui me paraît peut-être le plus synthétique de tout cela. C'est, il y a comme la montée d'une attitude de mépris à l'égard de l'espace public. C'est-à-dire, derrière le mépris du débat, il y a une dévalorisation de l'espace public, une confiscation des logiques de pouvoir. Seuls ceux qui dirigent ont le droit de penser, ce qui est le contraire.
Qui est à l'origine de cette confiscation?
C'est un processus très complexe. Moi, je pense que face à la délégitimation des institutions, la perte de popularité des institutions et du personnel politique, et ça c'est documenté par les sondages, eh bien effectivement, le pouvoir se rétracte sur lui-même et vient à nier l'idée même de l'espace public, celui qui était né au XVIIIe siècle et qui avait mis fin à l'absolutisme. On considère que les gens qui ne sont rien, comme disait quelqu'un, eh bien n'ont pas à donner leur point de vue et ne peuvent connaître que la loi de l'interdiction. Regardez les Jeux Olympiques. Vous ne connaissez les Jeux Olympiques qu'à travers tout ce qui va vous être interdit. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas souffler, vous ne pouvez pas aller au café, vous ne pouvez pas aller, etc., etc. C'est la vision que l'on a aujourd'hui de cela, l'apologie de l'interdiction. Le pouce au jouir de l'interdiction qui permet aussi c'est la culture aussi de la sirène et des gyrophares et bien des choses encore. Ça, c'est une pathologie de la démocratie.
Nous avons notre punchline pour ce dimanche, le pouce au jouir de l'interdiction. Sylvie Kaufmann.
Oui, je vais avoir du mal à produire autant de punchlines, mais tout ce qu'elle dit est... Tout ce qui a été dit est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de sujets en réalité évoqués. Alors juste quelques petites précisions. D'abord en réponse à Catherine Tricot, si je reprends le début de l'émission. Cette circulaire de Dupond-Moretti demandant l'application de la loi de 2014 sur l'apologie du terrorisme, c'est une constante des gardes des Sceaux depuis 2014. Même Christiane Taubira, à chaque moment de tension, d'attentat, le garde des Sceaux produit en général une circulaire pour dire n'oubliez pas cette loi de 2014 sur l'apologie du terrorisme. Et donc, en 2015, si je me souviens bien, Christiane Taubira l'avait fait aussi. Ensuite, le macartisme à la française, moi j'avoue que quand on a regardé de près ce qu'était le macartisme original, c'est-à-dire américain, la comparaison est quand même, on en est encore assez loin, je pense. Hein. Mais cela dit, il y a en effet un problème. Vous avez évoqué tout de suite cette question, c'est le cas de Mathilde Panot et Rima Hassan. J'ajouterai celui de ce délégué syndical de la CGT du Nord,
Jean-Paul
qui a été
Delesco.
Condamné à un an de prison avec sursis pour un tract qui décrit à peu près dans les mêmes termes que Mathilde Panot et Rima Hassan ce qui s'est passé le 7 octobre.
Plus quand même, pardonnez-moi. Le tract, hein, il date du 10 octobre et on peut y lire ceci. Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Oui. Alors, c'est pas forcément de l'apologie du terrorisme,
oui, c'est ça.
Mais ça va un petit peu plus loin
voilà,
que
donc,
ce que disait
oui,
les
c'est vrai. Après, donc on est dans ce problème de la définition, en effet, de l'apologie du terrorisme et de cette loi de 2014, qu'on appelle loi Cazeneuve, hein, qui était produite dans un moment, dans un contexte d'attentat et qui a donc sorti ce délit d'apologie du terrorisme des lois qui protègent la liberté de la presse, les lois de 1881, et pour l'insérer dans le droit pénal commun. Et je pense que là, et bien sûr, après, la responsabilité appartient au juge. Et très souvent, il classe toutes ces poursuites, toutes ces plaintes sans suite, heureusement. Mais c'est vrai qu'on a là un problème de définition beaucoup trop vague. Et dans les cas qu'on vient de citer, je pense que c'est abusif. Il n'y a pas d'apologie du terrorisme, à mon avis.
En même temps, Philippe Kaufmann, oui. On assiste quand même depuis le 7 octobre à une explosion des actes antisémites.
Absolument.
Est-ce que, alors c'est peut-être pas à travers cette incrimination-là, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même la nécessité de penser à mieux réguler l'expression publique pour ne pas provoquer ce genre
oui,
de choses.
Oui, mais alors là, je crois qu'il faut aussi, vous avez tout à fait raison, et j'allais y venir, parce qu'on a aussi aujourd'hui la publication dans Le Parisien d'une enquête d'opinion sur la montée de l'antisémitisme, qui est vraiment impressionnante.
Ah, hein, qui est effrayante,
effrayante, absolument. Les Français le ressentent eux-mêmes.
J'ai juste un chiffre, après je voulais vraiment poursuivre. 35 pour... Alors, d'après cette enquête, alors les enquêtes, bon, c'est toujours sur des échantillons, donc on peut aussi leur faire dire plein de choses, mais enfin, en tout cas, moi, ce chiffre m'a vraiment impressionné. 35% des 18-24 ans ont le sentiment qu'il est justifié de s'en prendre à des Juifs en raison de leur soutien à Israël.
Non, on est vraiment dans un contexte extrêmement difficile, je trouve, sur cette question de l'antisémitisme. Et ça, ce sont des opinions, mais il y a aussi les actes. On a enregistré une augmentation des actes antisémites depuis l'année dernière, absolument impressionnante. Donc, c'est cette spécificité en réalité. En France, on a la plus grande communauté juive d'Europe, on a la plus grande communauté musulmane d'Europe. Et chaque fois qu'il y a une tension au Moyen-Orient et ou une guerre ou une éruption de violence, on a ce souci et cette montée de la tension parallèle en France. Et donc là, c'est là que je reviens à Mathilde Panot et Rima Hassan. Je pense que le discours des politiques doit être protégé, le droit à la liberté d'expression des politiques doit être, et des syndicalistes et des responsables publics doit être absolument protégé. En même temps, c'est à eux aussi de faire preuve de responsabilité. Je pense que c'est pas parce qu'on est un leader politique qu'on a le droit de dire n'importe quoi. Quand Jean-Luc Mélenchon compare le président de l'université de Lille à Adolf Eichmann, je suis désolée, c'est irresponsable. Et là, ça relève de l'injure publique, je dois dire. Donc, alors après, on a cette question de l'interdiction des conférences dans les universités. Ça, c'est un autre volet de ce qui nous préoccupe ce matin. Alors, les présidents d'université les universités sont autonomes, ça relève de leurs prérogatives d'interdire ou non. On voit que cette interdiction à Lille a été de la conférence par le président de l'université de Lille a été levée par la justice. Donc là, on est dans le cadre de l'état de droit, ça fonctionne. Après, un préfet qui interdit la même conférence organisée dans une salle privée, là, je pense que c'est plus contestable. On est là dans l'exercice du pouvoir qui, à mon avis, est plus contestable. Alors, Bertrand Badie parlait tout à l'heure de débattre. Et c'est vrai que le lieu de l'université est par essence, ou des établissements comme Sciences Po, est par essence celui du débat. Et je suis entièrement d'accord que des étudiants de Sciences Po se préoccupent de politique et s'indignent de ce qui se passe en ce moment à Gaza. Quoi de plus naturel et quoi de plus sain, même, on pourrait dire. Hein. Mais encore faut-il que ce débat puisse être organisé dans les bonnes conditions du débat démocratique. Et je pense que celui auquel vous avez participé, Bertrand, était bien organisé. Quand vous avez une foule, plus ou moins nombreuse, qui décide d'occuper des locaux et qui décide qui va rentrer dans la salle où elle veut organiser un débat, on n'est plus nécessairement dans les bonnes conditions du débat démocratique. Voilà. Et quand vous parlez du rétrécissement de l'espace public, c'est très intéressant. Je trouve que c'est une notion intéressante. Mais en même temps, on a cet espace public totalement hyperdimensionné qui est celui des réseaux sociaux et de l'Internet et qui, là, encourage cette autocensure dont vous parlez et qui est extrêmement regrettable et qui existe. C'est un fait. L'autocensure, elle existe dans le monde universitaire, elle existe dans le monde intellectuel en général. Je pense qu'elle existe aussi dans les médias. Mais c'est en grande partie en raison de cet espace de non-droit auquel on est confronté maintenant à cause des réseaux sociaux.
Oui, finalement, Laetitia Stroche-Bonnard, est-ce que la liberté d'expression à laquelle, évidemment, on est toutes et tous attachés, elle ne fait pas aussi les frais d'une forme d'abus, d'usage de cette liberté, avec une brutalisation quand même du débat public depuis quelques années, qui oblige aussi peut-être alors à réagir de manière peut-être pas toujours approprié, mais enfin en tout cas de remettre des règles et des limites à cette liberté d'expression.
C'est parfaitement dit. J'ajouterais sur Sciences Po quelques points. J'ai un léger désaccord avec vous, Bertrand Badie, et donc un accord complet avec vous, Sylvie Kaufmann, sur la question du débat et la façon dont ce débat, la volonté de débat, s'est exprimée à Sciences Po. J'ai l'impression que s'il y a en effet des étudiants choqués par ce qui se passe à Gaza et qui veulent débattre, il y en a d'autres, il me semble, qui ont, disons, plutôt pour ambition d'imposer leur vue et d'imposer leur agenda. Et on a entendu parler notamment de cette association qui s'appelle Comité Palestine et dont les revendications n'ouvrent pas, il me semble, au débat. Puisque ce qu'ils demandent, c'est quand même que Sciences Po, par exemple, condamne Israël. Ils demandent la fin des partenariats avec les universités israéliennes, la condamnation par Sciences Po du risque de génocide.
Non. Ils demandent qu'il y ait un débat sur la question.
Non.
Ils ne demandent pas de fermer les relations avec...
Cette association-là.
Oui.
Donc là où vous avez raison, c'est que tous ne demandent pas la même chose. Et justement, il y a une diversité de positions sur Gaza à l'intérieur de Sciences Po. Et ce qui est très dommage, c'est que la seule chose qu'on entend, eh bien, ce sont ceux qui parlent le plus fort et ceux qui bloquent physiquement l'université, qui utilisent des slogans quand même très douteux, Israël assassin, on a beaucoup débattu depuis le 7 octobre de celui de la rivière, du fleuve à la mer, dont on connaît les connotations antisionistes et parfois même antisémites. Moi, je ne pense pas que ce soit un appel au débat que d'utiliser des slogans, d'utiliser des marqueurs visuels comme ces mains rouges, dont on sait qu'elles sont aussi connotées, qu'elles rappellent le lynchage de deux soldats israéliens l'année 2000, il me semble.
Alors, les étudiants qui ont utilisé ça ont dit qu'on n'était pas au courant de cette référence.
Oui, mais du dog whistle, c'est-à-dire de l'appel du pied. C'est-à-dire qu'on utilise une référence très connotée et on s'est fait croire ensuite qu'on ne savait pas ce que c'était. Mais simplement pour terminer, parce que moi, je tiens vraiment au débat. Je pensais que le débat de jeudi, donc qui s'appelait de ce nom anglais, town hall, je ne sais pas pourquoi. Ce débat de jeudi, je ne sais pas si c'est à celui-là que vous faisiez référence.
Non, je parle du vrai débat qui a eu lieu mardi soir sur Gaza. L'autre, c'était une réunion avec la direction pour envisager les points de...
Mais c'était censé aussi aboutir à quelque chose et en fait, ça a fait pchit au sens où après cette journée de jeudi, des étudiants ont décidé de continuer à exprimer leur désaccord. Certains ont lancé une grève de la faim et finalement, on voit bien que certains ne veulent pas de débat, certains veulent non pas débattre mais combattre, non pas proposer, mais mais imposer, et je trouve ça très dommage, parce que les injustices sont réelles dans le monde, et d'ailleurs pas seulement à Gaza, et c'est normal d'avoir ce genre de conversation, mais il ne faut pas qu'elles soient accaparées et instrumentalisées par certains.
Catherine Tricot, comment est-ce qu'on fait, alors pour conclure cette discussion provisoirement, on aura d'autres occasions sans doute d'y revenir, mais pour essayer de faire en sorte que le débat serein existe, comme on essaie de le faire vivre quand même chaque dimanche dans cette émission, sans que ça se traduise par une vraie brutalisation, comme je disais tout à l'heure.
Alors, je pense qu'il faut admettre qu'il y a du débat et puis il peut y avoir de la conflictualité. Je pense que déjà, il faut être d'accord avec le fait que tout n'est pas serein, calme, etc. Ne pas supporter d'entendre Israël assassin. Bah, moi, je pense qu'on peut dire qu'Israël assassine aujourd'hui.
C'est pas ne pas le supporter. Non, mais... C'est ne pas le discuter.
Non, je veux dire, quand les gens le disent...
Parce que personne n'a l'opportunité de répondre.
Non, mais ce que je veux dire, quand c'est un slogan, quand voilà. ça a été scandé, j'entends bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est du... Il y a du combat politique. Il n'y a pas que du débat politique dans la vie. Il y a aussi... Il y a des temps de débat, et il y a des lieux pour le débat. Et puis des fois, il y a des moments où il y a du combat politique. Les manifestations de rue, les meetings, les slogans. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut tolérer qu'il y ait de la conflictualité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je veux dire à ce propos, c'est qu'il ne faut pas chercher à excommunier tout le monde. Et je trouve que ce débat sur qui fait partie de la République, de l'arc républicain, je trouve, est catastrophique. C'est-à-dire qu'on passe son temps... Non, je n'ai pas dit que c'est vous ce qui avez dit. Je vais même vous dire qui l'a dit pas plus tard qu'hier. C'est Emmanuel Macron qui dit que les étudiants de Sciences Po ne font pas partie de la République. Ben non, je regrette. Occuper l'université de Sciences Po, cela fait partie des possibles de la République. Et ça s'est souvent vu, et ça se reverra, et ça ne se fait pas qu'en France. Et que donc, là, c'est pour ça que je dis que la question d'admettre dans la République à la fois le débat et le conflit dans des limites. Évidemment, je ne parle pas de la castagne. Et je partage tout à fait aussi l'opinion de Sylvie Kaufmann sur le fait que ça ne désengage pas les responsables politiques de la responsabilité de leurs propos. Et que quand on compare Adolf Eichmann au président d'université de Lille, on fait une faute morale, politique extrêmement grave. Enfin, pour moi, c'est inadmissible, impardonnable. Et ça, c'est de la brutalisation. Mais ceci étant, il faut être capable de le démontrer, de l'expliquer, et notamment pour les jeunes générations et pour les 35% dont vous avez parlé tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a trop de choses qui ne sont pas débattues, notamment expliciter, revenir sur l'histoire, raconter pourquoi les choses sont ainsi, de façon à dégonfler ce que je crois, moi, comme un danger, en effet, une résurgence, un antisémitisme par ignorance.
Un tout dernier petit mot de Bertrand Badi.
Trois petits mots, si vous permettez. La première, ah bah oui, quand même,
ouais, vous êtes gourmand,
que la liberté de parole existe encore. Ouais. Premier point, l'espace public, qu'est-ce que c'est? C'est très important, ça. C'est le fait de pouvoir... mettre en cause, mettre en question ce qui, dans un contexte absolutiste, est présenté comme une certitude. C'est le passage de la certitude à la remise en question. Ça, j'aimerais bien que ça demeure, sinon la démocratie meurt. Le deuxième élément, qui est peut-être plus sensible, c'est le problème de cette identitarisation funeste des grandes questions. Le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit politique et pas un conflit identitaire. D'abord, côté palestinien, il y a plusieurs identités, il faut pas l'oublier. Et côté israélien, il y a un choix politique. Et je pense qu'il est funeste, dangereux, brûlant de se précipiter sur un vocabulaire identitaire qui, immédiatement, provoque une réaction identitariste. Quand, par exemple, M. Netanyahou dit la Cour pénale internationale ferait de l'antisémitisme si elle se saisissait du problème actuel, c'est évidemment ouvrir une porte brûlante et horrible à des réactions antisémites. Bon, voilà, il faut pas oublier que c'est un jeu, hélas, circulaire. Le dernier élément, c'est que derrière tout ça se cache quelque chose d'absolument affreux, qui est véhiculé par certains de nos intellectuels, qui consiste à dire que expliquer est excuser. On a peur de l'explication dans cette société, et dès que l'explication ne plaît pas, on dit « Ah, ben voilà, vous êtes en train d'excuser. » Et le terrorisme, l'islamisme, le djihadisme, etc. Ça, c'est la la défaite de la pensée. La vraie pensée, c'est que justement l'explication soit libre pour qu'après, eh bien, chacun fasse l'œuvre politique de son choix.
Allez, on s'arrête là sur ce sujet. N'y voyez pas une atteinte à votre liberté d'expression.
Non, au contraire, j'ai pu m'exprimer librement.
Voilà. Et puis c'est simplement aussi pour que vous ayez le temps de parler de notre deuxième sujet.
Vive l'esprit public.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
La guerre menée par la Russie en Ukraine a profondément atteint l'ordre international que nous connaissons depuis 1945. Et cette guerre, plusieurs reprises j'ai qualifié d'impérialiste, de coloniale, est venue en effet fouler au pied nombre des principes de la Charte des Nations Unies que deux membres permanents du Conseil de sécurité que nous sommes doivent résolument défendre. Alors, la Chine, précisément forte de sa relation étroite avec la Russie, encore réaffirmée ces derniers jours, peut jouer un rôle majeur.
Et pour une fois, on va pouvoir parler de rencontres au sommet sans craindre d'abuser des superlatifs. Mardi, Emmanuel Macron va recevoir Xi Jinping dans la station pyrénéenne de la Mongie, à 1400 mètres d'altitude. La Bigorre, territoire cher au président français, qui a donc choisi d'y accueillir son homologue chinois pour clôturer la visite d'État de ce dernier en France. Xi Jinping arrive aujourd'hui à Paris, visite importante qui répond à celle qu'avait effectuée Emmanuel Macron à Pékin et Canton en avril 2003. L'extrait qu'on vient d'entendre date de cette visite-là. Et une visite qui, aujourd'hui, s'inscrit dans un contexte géopolitique toujours aussi chargé. Guerre en Ukraine, conflit au Proche-Orient, tensions autour de Taïwan. Et c'est justement sur ces crises internationales que vont porter une bonne partie des échanges entre les deux dirigeants. L'objectif ? Convaincre le président chinois d'user de son influence pour faire baisser la conflictualité dans le monde, en commençant par la Russie, à l'égard de laquelle la Chine dispose de véritables leviers économiques et militaires. Xi semble le mieux armé aujourd'hui pour faire entendre raison à Poutine. Mais la Chine est-elle prête à jouer ce rôle de médiation ? Deuxième puissance mondiale, membre permanente du Conseil de sécurité de l'ONU, elle en a le pouvoir. D'ailleurs, les autorités chinoises se disent officiellement neutres et appellent à une solution de paix en Ukraine, comme au Proche-Orient d'ailleurs. Sauf que Pékin n'a jamais condamné l'invasion russe de l'Ukraine. Bien au contraire, depuis le début de la guerre, Xi et Poutine ont multiplié les marques d'amitié et de soutien. Idem pour le conflit israélo-palestinien, la Chine, puissance d'équilibre capable de parler à tout le monde dans la région, semble avoir pris fait et cause pour les Palestiniens depuis le 7 octobre, peut-être pour enjoliver son image auprès des pays du fameux Sud global. Bref, on attend beaucoup de la Chine, tout en déplorant ses choix politiques. Dès lors, peut-on lui faire confiance ? Sylvie Kaufmann, cette visite de Xi Jinping, qui répond donc à celle d'Emmanuel Macron l'an dernier en Chine et qui s'inscrit dans le cadre du 60e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Cette visite, elle est d'abord importante pour nous, Français, pour les Chinois ou pour les deux ?
Elle est importante pour l'Europe, je pense, mais pour nous aussi. Vous rappelez qu'elle se situe aussi dans le contexte du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, donc par De Gaulle en 1964. Et comme le rappelle mon excellent journal,
Le Monde, dans un
très bon récit des relations franco-chinoises, justement, et de l'histoire de ces 60 ans, le contexte en 1964 était évidemment radicalement différent. La Chine en 1964, c'était pas du tout la Chine d'aujourd'hui. Et là, Emmanuel Macron reçoit le président d'une puissance dont on ne cesse de marquer l'ascension, enfin de commenter l'ascension vraiment impressionnante sur la scène mondiale, à la fois économique et géopolitique. Et la France s'inscrit, elle, vraiment dans un cadre européen. En tout cas, c'est la volonté du président Macron. Il a invité la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à venir s'entretenir avec Xi Jinping, avec lui demain, comme il l'avait fait d'ailleurs, il l'avait emmené en Chine l'année dernière. Il a essayé d'embarquer aussi le chancelier Scholz, mais comme d'habitude...
Il avait des problèmes d'agenda.
Sur la Chine, le chancelier allemand préfère jouer sa partition à lui parce qu'il a des intérêts économiques différents, très, très spécifiques à son pays. pays, et notamment en ce qui concerne l'industrie automobile, mais on y reviendra parce que c'est un point très très important. Et donc, on a aujourd'hui une Chine qui s'est énormément affirmée sur la scène mondiale, au point de d'être maintenant dans cette bipolarité quasiment avec les États-Unis, mais qui affiche un agenda de transformation de l'ordre mondial et elle essaye de refaçonner cet ordre mondial à son avantage. Donc, vous évoquez la question de l'Ukraine et bien entendu, elle figure à l'ordre du jour. Mais pourquoi, quand vous dites est-ce qu'on peut faire confiance à la Chine, pourquoi est-ce que la Chine, qui a effectivement des leviers énormes sur la Russie, puisque on voit aujourd'hui, au bout de plus de deux ans et demi de guerre en Ukraine, que si la Russie arrive à se maintenir, à maintenir son économie, à maintenir une production industrielle et notamment une production d'armement très, très impressionnante, c'est en grande partie grâce à l'aide que lui fournit la Chine, qui ne franchit pas la ligne rouge de la livraison d'armes létales, ça c'est très clair, mais qui fournit énormément de composants de ce qu'on appelle à double usage, qui sont des fournitures de produits microélectroniques ou industriels, de machines-outils qui ont théoriquement un usage civil, qui sont exportés vers la Russie par la Chine pour à ce titre, mais qui en réalité sont utilisés pour la production de missiles, d'armements, de chars aussi, enfin d'équipements militaires par la Russie.
Donc la Chine qui revendique une neutralité sur le conflit russo-ukrainien, elle ne l'est pas.
Elle n'est pas neutre et un des résultats les plus spectaculaires, je dois dire, de cette guerre en Ukraine sur le plan géopolitique, c'est le renforcement de cet axe russo-chinois au détriment des États-Unis et de l'alliance transatlantique, évidemment. Donc pourquoi est-ce que, bien entendu, Emmanuel Macron, comme l'a fait Emmanuel Scholz, comme n'arrêtent pas de le faire les Américains à chaque fois qu'ils ont l'occasion de
Olaf
parler
Scholz,
aux Chinois.
Hein, pas Emmanuel Scholz.
Pardon. Olaf Scholz et Olaf Macron. Scholz et Emmanuel Macron va à nouveau dire à Xi Jinping, essayez, c'est vous qui pouvez influer sur la Russie pour que on s'oriente plus vers une issue de cette guerre en Ukraine. Mais pourquoi est-ce que la Chine le ferait? Finalement, cette guerre en Ukraine la sert d'une certaine manière parce qu'elle place la Russie dans un rapport de plus en plus accru de vassalisation vis-à-vis de la Chine et elle permet de contrer plutôt l'ordre occidental en Europe. Donc je ne pense pas que Emmanuel Macron arrivera, pas plus que les autres, arrivera à grand chose sur ce plan-là. L'autre volet, je m'arrêterai là pour laisser la place. Pour laisser la parole à mes amis, l'autre volet qui est très très important est celui des rapports économiques évidemment et commerciaux parce que l'Europe est en train d'être totalement inondée de produits chinois et notamment de véhicules électriques chinois bon marché.
Pour rester sur la question purement diplomatique, disons, et géopolitique, enfin même si l'économie, ça fait partie de la géopolitique, mais le porte-parole de la diplomatie chinoise est à peu près sur la même tonalité que l'Élysée dans ce qui est attendu par rapport à cette visite de Xi Jinping en France. La diplomatie chinoise dit, voilà, alors Emmanuel Macron et Xi Jinping tenteront de faire de nouvelles contributions à la paix, à la stabilité, au développement et au progrès du monde. Est-ce que ça veut dire que c'est une rencontre assez décisive qui se joue là dans les prochaines heures, selon vous, Catherine Tricot?
Je ne sais pas si elle est décisive, mais en tout cas, je trouve ça intéressant comme communiqué. Parce que ça veut dire qu'en fait, il y a, c'est pas simplement nous ce que nous attendons de la Chine, il y a éventuellement ce que la Chine attend de nous. Et éventuellement même ce que le monde attend de nous. Moi, je trouve que l'enjeu que nous ayons quelque chose à dire au monde, c'est-à-dire le poids de la Chine dans le monde, c'est à la fois son extraordinaire développement économique qui en fait rêver plus d'un et donc il y a une compréhension à avoir de qu'est-ce qui a permis ce développement économique, mais il y a aussi son rôle international qui fait qu'elle semble représenter une alternative à l'ordre occidental qui est quand même très affaibli. Et je pense que notre problème, c'est qu'il faut que nous ayons quelque chose à dire au monde et que nous n'avons plus grand-chose à dire au monde. Et ce communiqué dit un peu qu'on attend de la part de la France notamment, et moi je crois que la France peut y contribuer véritablement, à ce qu'il y ait des solutions, des propositions qui soient faites au monde, alors à la fois sur les conflits les plus brûlants, donc évidemment l'Ukraine et Gaza, mais sur les problèmes de développement économique, les problèmes de lutte contre le réchauffement climatique. Il y a quand même des enjeux mondiaux sur lesquels la Chine est positionnée et sur lesquels on attend de l'Europe en particulier qu'elle ait quelque chose à dire et qu'elle ne cache pas ces désaccords, qu'elle puisse être une alternative, parce que un des problèmes, je trouve, c'est qu'on associe le développement qui s'est produit en Chine à l'autoritarisme dans lequel ça a été émergé. Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'il y a obligatoirement, pour ce développement, de l'autoritarisme de l'État? Est-ce que c'est forcément articulé? Il faut qu'on soit capable de démontrer que ça ne l'est pas. Et si ça ne l'est pas, il faut que nous ne le soyons pas. Ça renvoie à notre discussion de tout à l'heure, mais je dirais à d'autres discussions plus vastes sur la manière, par exemple, de respecter les droits de l'homme, notamment sur la question des migrations, je dirais. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit capable, que la France et l'Europe soient capables d'envoyer au monde des solutions qui soient reconnues par le reste du monde comme une alternative possible au monde actuel, ce qu'aujourd'hui seule la Chine semble porter, y compris par exemple, je termine sur ça, en se substituant au FMI ou à la Banque mondiale pour un certain nombre de projets. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose à imaginer, et je note qu'Emmanuel Macron n'a pas prononcé une seule fois le nom de l'Afrique dans son intervention à la Sorbonne. Donc voilà, il faut que le monde revienne dans notre esprit et que nous ayons quelque chose à lui dire.
Et ce, donc, à l'occasion de cette visite de Xi Jinping en France,
oui,
notamment.
C'est l'occasion de faire émerger cette discussion avec la Chine sur ce qu'elle propose et ce que nous avons à en dire et à proposer. Pas simplement à chercher à lui donner des leçons.
Alors, peut-être sans lui donner des leçons, mais en tout cas exprimer des attentes qui sont peut-être un peu contradictoire aussi, Bertrand Badie, par rapport à la Chine. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à la fois, on attend d'elle qu'elle prenne plus de place, plus de responsabilité dans l'ordre mondial, et en même temps, on craint qu'elle prenne davantage de responsabilité.
Oui, moi, je pense que la réalité est peut-être plus douloureuse et préoccupante qu'on ne le pense spontanément. Pourquoi ? Il faut gérer, me semble-t-il, trois échecs graves. Qui sont non seulement ceux de la France, mais je dirais de l'Europe et peut-être du monde occidental. Premier échec, c'est que on n'a pas su jamais créer un partenariat d'une façon générale avec les puissances émergentes, avec les puissances du Sud et en particulier avec la Chine. C'est-à-dire l'Europe a été tellement habituée pendant des siècles et des siècles à considérer que la relation internationale c'était entre cousins, entre voisins, entre Européens, que intégrer une nouvelle diplomatie à long courrier avec un pays qui a une toute autre histoire, qui a une toute autre tradition, une toute autre insertion dans la vie mondiale, apparaît soit comme impossible, soit comme marginal. Et je ne connais pas, depuis la reconnaissance en 64, de moment où vraiment, sauf peut-être du temps de Raffarin Premier ministre, on ait essayé d'imaginer un vrai partenariat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire être allié, ça ne veut pas dire être ami, ça veut dire être partenaire, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être être partenaire ? Ça, on ne le sait pas faire, c'est la vieille arrogance de l'entre-soi et cette espèce de négligence pour ceux qui sont au-delà des mers. Donc, il est temps de définir ce partenariat original avec la Chine, comme avec le Brésil, comme avec l'Inde, avec l'Afrique du Sud, avec les pays africains, comme vous le disiez très justement.
La Chine a les mêmes attentes, c'est-à-dire côté chinois.
La Chine est très attentive à la manière dont les vieux, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire le vieux monde, pense construire son partenariat avec elle. Ça, c'est quelque chose de très 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 important et que autant mes collègues chinois me disent quand je suis dans les universités chinoises que même les quelques officiels que j'ai pu rencontrer. Le deuxième élément, c'est que on n'a jamais fait vraiment l'effort de comprendre la Chine et ce qu'elle attend vraiment des relations internationales. Et là, il y a quelque chose de très important, me semble-t-il, qui se révèle. Une sorte de tension permanente. La Chine, avec sa grammaire politique, c'est-à-dire elle n'a pas la même lecture, le même vocabulaire que nous, il faut savoir le décrypter, mais la Chine, en même temps a choisi dès 55 des Bandung de s'ériger en leader du Sud. Hein, ça, c'était la grande idée de ce génie politique qui était Chou En Lai, n'est-ce pas? Et en même temps, comme dirait quelqu'un, elle sait qu'elle est de plus en plus dépendante de l'ordre et de la stabilité mondiale. Il y a en même temps un militantisme d'innovation, de rénovation, de production de nouvelles normes, de leadership de ces damnés de la Terre qui étaient les pays du Sud, et en même temps une confiance dans un ordre mondial intégré dont elle a besoin parce que le succès de son économie dépend effectivement de ce grand marché mondial qu'elle doit préserver. C'est, si on fait attention à ça, c'est une chance pour nous. Il faut intégrer l'idée que la Chine n'a pas intérêt à une déstabilisation du système international. Il faut également intégrer le fait que la Chine a, par rapport aux pays du Sud, une position construite de leadership qu'il faut savoir ni accepter ni refuser, c'est pas le problème, mais en tous les cas, se définir par rapport à elle. Et troisièmement, avoir une évaluation, ce qu'on n'a jamais su faire, de ce qu'est la capacité diplomatique réelle de la Chine. Alors, certains disent, à mon avis à juste titre, c'était une bonne idée du président Macron que de la mettre à exécution l'an dernier, c'est à peu près à cette époque, lorsqu'il s'est rendu en Chine pour inciter la Chine à une, sinon médiation, j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas une intervention positive dans le conflit russo-ukrainien.
On l'attend toujours, hein, cette intervention positive.
Mais oui, mais parce qu'on ne la travaille pas. C'est-à-dire, quel est le biais par lequel la Chine peut intervenir positivement dans la gestion de ce conflit? Vous savez, la Chine a par rapport...
En arrêtant de fournir l'industrie russe, par exemple.
Oui, mais Sylvie, c'est vrai. En même temps, la Chine, qui n'a jamais été l'allié de la Russie, hein, par parenthèse, faut pas l'oublier, considère que c'est de son intérêt que la Russie se vassalise à elle, mais ne s'effondre pas non plus. Donc, il faut jouer de ce paramètre en disant, mais peut-être que, au nom de ce principe d'équilibre, qui est un vieux principe chinois, de la culture chinoise, il y a peut-être un axe d'intervention diplomatique. Est-ce qu'on a travaillé ce dossier? Je ne crois pas.
Laetitia Strauss-Bonnard, la Chine, c'est notre allié, c'est notre adversaire, c'est un petit peu tout ça à la fois.
C'est compliqué. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même a pas mal hésité parce qu'il y a un an, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de la locution que vous nous avez fait écouter un extrait, il a également dit la pire des choses à propos de Taïwan, la pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Et là, eh bien... disons que cette déclaration a beaucoup choqué, a beaucoup fait réagir parce qu'on a eu l'impression, et c'est certainement ce qu'il voulait dire, qu'il se plaçait finalement au milieu, c'est-à-dire dans une troisième voie, entre la Chine et les États-Unis sur Taïwan. Or, ça n'est
un
pas
peu à la De Gaulle,
censé être notre position, voilà, mais n'est pas De Gaulle qui veut. En tout cas, un an plus tard, sa position est très différente là-dessus. Dans un entretien qu'il a donné à l'hebdomadaire britannique The Economist, qui est sorti il y a deux jours, il explique que l'Europe n'est pas équidistante des États-Unis et de la Chine. Donc, si on le lit bien, parce qu'il faut quand même faire de l'interprétation de texte avec Emmanuel Macron, on est quand même plus près des États-Unis, bon, on le savait, hein, et plus loin de la Chine, mais quand même, la Chine est un partenaire, ça n'est pas forcément un ami, ni un allié, notre allié ce sont les États-Unis, mais c'est un partenaire, et c'est là qu'arrive le sujet finalement stratégique, qui n'est pas seulement militaire ou climatique, qui est économique. Et on a aujourd'hui un sujet très important avec la Chine, entre l'Union européenne et la Chine, qui est la nature de nos relations commerciales. Aujourd'hui, la Chine est plus protectionniste que l'Union européenne pour un certain nombre de biens, notamment les voitures électriques, mais on peut aussi citer les panneaux solaires ou tout ce qui concerne l'éolien. Les droits de douane des produits français, pardon, européens qui arrivent en Chine sont plus élevés que ceux des droits des biens chinois qui arrivent en Europe. C'est très problématique. C'est problématique parce que l'OMC, en fait, est incapable de faire imposer les règles qu'elle devrait faire imposer. et qu'en plus, les États-Unis font la même chose avec leur nouvelle régulation, leur nouvelle loi, Inflation Regulation Act. Il est possible maintenant de subventionner des industries considérées comme stratégiques, qui comprennent aussi bien des industries militaires que des industries liées à l'innovation contre le changement climatique. Donc on est dans un contexte de protectionnisme montant, de la part des États-Unis, de la part de la Chine. Et le problème, c'est que l'Union européenne n'a pas encore pris position. Donc la rencontre d'Emmanuel Macron avec Xi Jinping, c'est aussi ça. C'est d'arriver à montrer que l'Europe ne veut pas accepter d'être perdant dans ce jeu d'une mondialisation qui continue d'exister, mais qui se referme. Et là, on voit aussi à quel point la diversité des opinions à l'intérieur de l'Union européenne est un obstacle pour nous, parce que nous ne sommes pas tous d'accord. Tous les pays européens n'ont pas les mêmes intérêts en ce qui concerne le commerce international. Donc nous sommes plutôt, il me semble, en position de faiblesse. Ceci dit, la Chine a besoin d'écouler une surproduction de produits industriels, et notamment les voitures électriques. Nous avions l'habitude, en fait, avant d'exporter nos biens vers la Chine. Maintenant, c'est clairement le contraire. Ils ont produit énormément. Ils ont besoin de nous vendre des biens industriels. Donc, toute la question, c'est de savoir jusqu'où la Chine est prête à céder, finalement, peut-être en termes de droits de douane, peut-être en termes de subventions, et aussi jusqu'où l'Union européenne est prête à céder. Je pense qu'il faut absolument revoir la question des aides d'État aux industries européennes. Parce que nous ne pouvons pas continuer à nous infliger des règles que les autres pays ne s'appliquent pas à eux-mêmes.
Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti Socialiste pour les prochaines européennes, à propos de la visite de Xi Jinping en France, dit ceci: on va refaire les mêmes erreurs qu'avec Poutine, dérouler le tapis rouge devant Xi Jinping. Ça fait 20 ans que les gens qui façonnent ces politiques pseudo-réalistes se trompent. Silly Kaufmann, vous qui avez écrit Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, est-ce que là, l'Europe est en train de laisser la voie libre à la Chine?
Alors, c'est pas tout à fait le même enjeu, hein. La Russie, c'est un enjeu de sécurité essentiellement, et la Chine, c'est un enjeu de principalement économique actuellement et d'influence géopolitique. Je dois dire que le chancelier Scholz, qui s'est rendu il y a trois semaines en Chine, si on regarde la manière dont il a mené cette visite, accompagné de 12 PDG et sans en évitant toute confrontation ou
tout sujet qui fâche,
si on peut dire, oui, en étant assez conciliant dans son discours là-bas, tend à accréditer l'idée que l'Allemagne n'a pas retenu les leçons de la Russie, de sa dépendance au gaz russe qu'elle paye très cher aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a une question qui est assez légitime. Le cas de la France est un petit peu différent, mais à nouveau, on ne peut pas faire abstraction de ce cadre européen que Laetitia vient de décrire. Et il y a un vrai enjeu économique pour l'Europe, et il y a un nouveau réalisme aussi de la part de, je pense, y compris de la part d'Emmanuel Macron sur cette question. Cela dit, alors, après, c'est vrai que la Chine n'est pas dans une situation économique extrêmement euphorique en ce moment, et donc a besoin du marché européen. C'est quand même 450 millions d'individus et de consommateurs. Donc, il faut jouer de ce levier-là. Mais c'est vrai que les conditions de concurrence ne sont pas équitables. Ça, c'est un fait. On ne peut pas le nier. Cette industrie des véhicules électriques est extrêmement subventionnée, et beaucoup plus que n'est l'industrie automobile européenne. Donc il faut, c'est là-dessus que va porter une partie de la bataille.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que les Européens lient les questions économiques et les questions diplomatiques en disant, par exemple, si vous voulez continuer à nous envoyer vos voitures électriques, prenez vos responsabilités au niveau géopolitique et faites en sorte que la Russie cesse
Non, je pense que c'est deux dossiers différents et deux intérêts différents. Et on voit bien, alors l'Union Européenne a ouvert une enquête sur ces subventions de l'industrie automobile chinoise, et immédiatement il y a une mesure de rétorsion qui a été prise par Pékin, qui a ouvert une enquête sur les subventions aux eaux de vie, et notamment au cognac français. Donc on voit bien que là on joue le jeu est assez délicat sur les intérêts géopolitiques. Non, je pense que là on est vraiment beaucoup dans le rapport de force, et la Chine, c'est vrai, a su parfaitement tirer profit de l'impuissance ou de l'absence de volonté politique politique occidentale a réformé le système de gouvernance internationale. Elle en profite et maintenant c'est à nous d'essayer de tirer les marrons du feu. Mais je pense que dans ce qui se passe avec le conflit en Ukraine, on voit bien que l'intérêt de la Chine n'est pas de bouleverser les choses.
Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Bertrand Badi, Catherine Tricot, Sylvie Kaufmann et Laetitia Stroche-Bonnard. Émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée par Luc Jean Reynaud. À la prise de son aujourd'hui, il y avait Alexandre Drang.
France Culture. L'esprit d'ouverture. Paris, 1941. Jacques, lycéen de 16 ans, forme avec une poignée de copains un mouvement de lutte contre l'envahisseur. Trahi par l'un des siens, le jeune homme est arrêté et déporté à Buchenwald. Ce héros de la résistance, c'est Jacques Lucéran. Et depuis l'enfance, il est aveugle.
Ma cécité me permettait d'avoir, avec ceux que je touchais, des contacts beaucoup plus directs.
Une histoire particulière, Moi, Lucéran, aveugle et résistant, d'Antoine Jonin et Thibaut Delavigne, réalisé par Marie Placet. Ce week-end à 13h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. En s'adressant, par-delà la Shoah, à toutes les victimes, l'écrivain Michel Simoneau interroge le rôle du témoin et invite le mort à prendre part dans une fiction poétique.
Tu entends ? La pierre redevient chair. Les fleurs se tendent vers le soleil, les gisants vont pouvoir se dresser.
Traverser la cendre de Michel Simoneau, réalisé par Louise Loubrieux, ce dimanche à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et sur France Culture, il est midi, l'heure de retrouver les bonnes choses de Caroline Brouet. Bonjour Caroline.
Mais bonjour cher Hervé.
Quel est le programme aujourd'hui ?
À la table de Marcel Pagnol. Vous allez
ça
nous
sent le pastis et les cigales. Ça.
Ah, c'est ça, à peu près. Bon dimanche, Hervé.
Bon dimanche.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation.
Madame, je tiens à vous dire que je suis prêt.
Prêt à quoi ?
J'ouvre demain.
Et moi aussi, et je suis prêt.
Vous êtes prête à servir du saucisson, des olives, des anchois, de la salade, et peut-être de temps en temps, les jours de fête, un œuf sur le plat.
Mais vous êtes prêt à réciter des recettes de cuisine sans jamais faire manger personne.
Madame, j'ai une proposition à vous faire, mais je préférerais vous parler à l'intérieur de la Gascogne.
Monsieur, le restaurant n'est pas encore ouvert. Et je